la page, changer de paysage.
Amis de Radio Colavive, bonjour, Monique Liskoen en votre compagnie pour une page ouverte. Et aujourd'hui, chers amis auditrices, auditeurs, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur les ondes de Radio Colavive Monsieur Eddy Bouraoui. Bonjour Eddy Bouraoui.
Bonjour Madame Monique Louise.
Et nous avons également le plaisir de recevoir un invité bien connu de Radio Colavive, c'est notre ami Pierre Léoutre. Bonjour Pierre Léoutre.
Bonjour Monique Louise, bonjour Eddy.
Bonjour Pierre.
Voilà, l'occasion de notre réunion, tous les trois, c'est la publication des actes d'un colloque qui vous a été consacré à Lectour dans le Gers. Et ici nous sommes avec vous en direct au téléphone, vous êtes à Toronto et oui. Voilà, nous allons dire quelques mots de vous et puis nous parlerons du colloque, le colloque qui porte votre nom, Eddy Bouraoui et les valeurs humanistes, des textes qui ont été réunis sous la direction de Frédéric Gaël Thuriot et un colloque organisé par Pierre Léoutre qui nous en parlera et qui est ici avec nous. Alors Eddy Bouraoui, pour vous présenter un peu aux éditeurs, aux auditrices, vous êtes né au Maghreb, en Tunisie, vous avez fait vos études secondaires à Lectour, dans le Gers, tout près d'ici, vous avez été également à Paris et maintenant vous êtes en Amérique du Nord, professeur émérite de lettres à l'Université York de Toronto au Canada. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites à votre propos dans le livre du colloque. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous jugez le plus indispensable pour vous présenter.
Oui, bon, ce qui est indispensable pour me représenter, ce sont en fait justement ces valeurs humanistes que j'essaie de promouvoir dans mes écrits. J'ai commencé par être poète, je faisais beaucoup de la poésie, puis je suis passé au roman, et puis j'ai fait des contes, je fais pas mal d'écrits, mais moi, vraiment ma contribution essentielle, c'est de dire que c'est la culture et le chemin de la tolérance, tandis que l'ignorance ne peut être que source de violence. En gros, c'est ça mon message. J'écris surtout pour montrer que la tendance dite multiculturelle, multiethnique, multireligieuse peut s'entendre à vivre un sort commun. Et c'est dans cette direction-là que j'essaie de travailler et que j'ai toujours travaillé. Ce qui me représente, c'est donc ce travail de faire connaître les possibilités de vivre en paix à travers le monde entier, puisque je proviens moi-même de trois continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et j'essaie de faire dialoguer les valeurs culturelles et les valeurs humanistes de ces trois continents, sans oublier l'Asie, par exemple, où j'ai écrit un roman sur Bangkok Blues, ou bien récemment ce que j'appelle un narratoem sur la réfugiée, une réfugiée du Laos, qui habite à Paris d'ailleurs.
Alors, avant d'aller plus avant dans l'évocation de votre œuvre, je voulais passer la parole à Pierre Léoutre, qui a organisé le colloque qui vous est consacré. Et oui. C'est certainement de l'intérieur et dans la même inspiration de ces valeurs humanistes que Pierre vous a invité. Et d'autre part, je voulais rappeler que Pierre, qui est bien connu ici, sur Radio Colavive, Pierre dirige une association, Dialoguer en poésie, Pierre est par ailleurs romancier. Il a publié de nombreux romans, dont j'ai ici près de ma main un des derniers qui a un titre tout à fait lévinassien, Le passage au temps de l'autre. Et puis il est historien, il est co-auteur d'un livre important qui vient de paraître, Histoire des communautés juives de Toulouse, des origines jusqu'au troisième millénaire. Voilà, c'est quelques mots pour parler de Pierre. Et Pierre, dites-nous quelques mots sur le, je vous prie, sur le Dialoguer en poésie.
Alors, Dialoguer en poésie, c'est une association, une vieille association de Lectoure dans le Gers, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par des passionnés de poésie de la ville de Lectoure et des poètes russes. Alors, c'est parti comme ça. Régulièrement, on organise des repas, des rencontres de poésie, des rencontres de poésie, enfin divers événements.
Des publications.
Tous les deux ans, on fait un recueil de poésie très inégal, hein, parce qu'il y a des gens, je suis assez ouvert, assez tolérant sur les œuvres qui sont présentées. Donc il y a du bon et du moins bon. Mais le principal, c'est qu'il y a un état d'esprit poétique réel qui anime un groupe de personnes et ça se passe très bien. Et alors, il y a deux ans, je croise dans les rues de Lectoure et d'Ibouraoui. Et on sympathise énormément parce qu'effectivement, on doit avoir en commun pas mal de valeurs humanistes. Et l'idée est venue un peu folle, hein, de cette idée de faire un colloque international à Lectoure sur l'œuvre d'Eddie Bouraoui. Et ça a marché, ça a fonctionné. Et j'ai vu arriver des gens formidables du monde entier, hein, souvent des professeurs d'université. Et on s'est retrouvés pendant trois jours pour célébrer l'œuvre d'Eddie Bouraoui et les valeurs qu'elle contient. Et il y a eu des moments vraiment magiques et très poétiques, avec un colloque, notamment une journée de colloque très, très, très assidue, très complète, où on a pu vraiment échanger avec beaucoup de profondeur et d'affection. Il y a vraiment des moments extrêmement, extrêmement importants. Et on a eu envie, donc, ensuite, de publier les actes de ce colloque. Et avec la bienveillance d'Eddy et le dynamisme et l'efficacité de M. Thoriot, on a pu publier ce livre. Voilà.
Alors, je voudrais dire, merci Pierre, je voudrais dire quelques mots sur ce livre très intéressant que j'ai découvert il y a peu de temps, hein, pour présenter un peu les thèmes qui s'y trouvent, et puis nous parlerons bien sûr, Eddie Bouraoui, de votre œuvre très particulièrement. Donc, Frédéric Gaël Thoriot, qui est membre de l'université de recherche ICD à l'université François Rabelais de Tours, écrit « Eddie Bouraoui ou la valeur de l'humanisme ». Et nous parlerons bien sûr de l'humanisme. Angela Buono, « Livre errance d'Eddie Bouraoui, l'entre-deux de la critique et de la poésie ». Monique Labidoire, « Eddie Bouraoui, un poète sans domicile fixe ». Marie-André Rico-Hernandez, « Méditerranée, d'un rivage à l'autre, des cultures antiques à celles du troisième millénaire, vent en poupe et voile déployée, à la recherche de la petite île fortunée. » Frédéric Gaël Thoriot, poétique d'un vocabulaire et d'un langage spécifique. Samira Etouil, corps et écriture, dans « Livre errance de ». De Boussad Berichi, Eddie Bouraoui ou la poétique du sens. Elisabeth Sabiston, nager à contre-courant en amont de l'intuition d'Eddie Bouraoui. Dirina Babamova, l'héritage littéraire de Macédoine et sa transposition en poésie par Eddie Bouraoui. D'Éric Jacobet, l'écriture entre guillemets à travers dans l'œuvre poétique d'Eddie Bouraoui. Rachid Aous, Paris berbère, le roman d'Eddie Bouraoui, et une conclusion donc faite par Pierre Léoutre et Marie Rico Hernandez. Voilà. Donc c'est un livre très important dans mesure la densité. Et maintenant j'aimerais peut-être pour rentrer un peu dans votre œuvre, puisque vous êtes défini Eddie Bouraoui tout à l'heure particulièrement comme poète, je voudrais, si vous me permettez, lire un poème de vous, et puis nous commençons nous reprenons notre dialogue. Cet extrait de Ton monde sculpté, Vers et l'envers, en 1982. Articuler, c'est fonder la justesse du passant, réveiller la compassion du regard récalcitrant, jeu aboli, pouvoir de vie transmis dans un cri. Quant à l'art, s'abstenir, retenir le baiser, pour que le corps voûté ne se défasse point, que le sujet survive au poétique. C'est très énigmatique. C'est très énigmatique. Qu'est-ce que c'est que le sujet qui survit au poétique?
Ben, vous savez, le sujet poétique, moi, pour moi, je vais vous dire en quelques mots, pour moi, la poésie, et je l'ai dit, je l'ai répété souvent, je ne suis pas intéressé à contempler mon nombril, vous comprenez, c'est-à-dire le je, le moi, bon, ben, il faut connaître, oui, il faut connaître, c'est bien, mais il faut aussi que la poésie essaie d'être ce que j'ai appelé un peu fonctionnelle. Fonctionnel, c'est-à-dire de faire passer un message qui dit une vision du monde et qui traverse l'univers pour dialoguer avec d'autres visions du monde. Et dans ce sens-là, c'est une recherche constante d'un langage poétique, donc spécial. Et pour moi, la poésie, c'est la quintessence de toute langue. Donc, c'est la crème de la crème, si vous voulez, d'une manière populaire. Et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie.
La poésie permet donc le passage d'une culture à une autre.
Pardon, je vous entends pas très bien.
La poésie permet des passages d'une culture à une autre.
Tout à fait. Alors, c'est ça. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai lancé la notion, depuis les années 70, la notion de transpoétique.
Voilà.
C'est-à-dire, la transpoétique, c'est un peu parallèle à au transculturalisme, si vous voulez. C'est le passage d'une culture à l'autre, d'une valeur à l'autre, d'une religion à l'autre, d'un pays à l'autre et de ses valeurs culturelles. Voilà. En gros, c'est ce passage-là qui m'intéresse. Et le passage d'une culture à l'autre ne peut pas se faire, vous comprenez, ne peut pas se faire aussi facilement qu'on le croit. Il faut d'abord connaître sa propre culture avant de pouvoir la passer à quelqu'un d'autre.
Alors,
d'autre. Pardon?
Oui, je vous poserai la question quand vous aurez terminé. Allez-y.
En connaissant sa propre culture, on peut la faire passer. Si on ne la connaît pas, on ne veut pas la faire passer. Et j'ai dit quelque chose comme ça, d'ailleurs, un des critiques du livre le dit quelque part, je crois que c'est Angela Bois, non? Qui cite d'ailleurs Transpoétique, éloge de l'homadisme, c'est un livre d'essai qui justement qui cogite, qui pense la transculturalité et la transpoésie. Voilà, en gros, c'est ça. Et le non-génomatisme, ça veut dire simplement que la poésie, comme la vie, comme le langage, comme les êtres humains, sont en constant mouvement. C'est toujours en mouvement. C'est donc dans l'errance que nous, dans ce que j'appelais la nomaditude, que on peut traverser le monde, mais traverser aussi les êtres humains, traverser les cultures, et c'est dans cette interaction des gens, des êtres et des valeurs culturelles que nous pouvons construire, j'espère, un monde meilleur. Voilà, avec la paix et l'harmonie entre les trois religions du livre, par exemple, entre les différentes cultures des différents continents. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir le travail de la poésie.
Et vous disiez, je souhaitais vous poser cette question, qu'il faut que pour aller vers d'autres cultures et pour opérer ces passages et être un passeur, il faut bien connaître sa culture. Mais vous, Edir Bouraoui, qui êtes de trois continents, quelle est votre culture à vous? Qu'est-ce que vous diriez de votre principale culture?
Ah, voilà, c'est une très bonne question, Marie-Lise. Oui, qu'est-ce que je dis de ma culture? Ma culture, à moi, elle est une culture plurielle. Elle n'est pas une culture unique. C'est ça l'erreur de pas mal d'écrivains qui pensent que leur culture, elle est une culture unique. Ce n'est pas vrai. C'est un entassement des valeurs culturelles qui se forment dans chaque pays, d'ailleurs, comme dans chaque être humain. Si vous voulez, une métaphore que j'ai lancée il y a bien longtemps, quand on m'a demandé quelle est votre identité exacte, j'ai dit mon identité exacte, c'est qu'elle est faite de toutes les couches culturelles que j'ai acquises dans ma vie, à savoir une identité, et je l'ai dit, millefeuille. C'est une identité millefeuille, c'est pas une identité unique. Et c'est ça l'erreur que commettent, à mon avis, pas mal d'écrivains qui pensent que leur culture est unique. C'est vrai, il y a une base. Et moi, j'ai eu une base africaine et maghrébine dans le sens où je suis né à Sfax. Mais à Sfax, dans mon quartier qui s'appelait Boulainville, il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans qui vivaient en harmonie. Et je crois que c'est cette métaphore-là qui m'a amené à la métaphore de Carthage, où toutes les races et toutes les religions sont passées, et qui m'a amené à la métaphore du Canada, à savoir ce que Trudeau a lancé dans les années 70, et j'étais là ici, la mosaïque canadienne. La mosaïque canadienne, et le Canada est un pays, par exemple, où ce qu'on appelait le multiculturalisme a été dévoyé, au fait, parce qu'il a créé des ghettos, vous comprenez ? Le multiculturalisme a créé des ghettos, les Congolais se mettent avec les Congolais, les Espagnols se mettent avec les Espagnols, l'Italie, la petite Italie, les Chinois, Chinatown, etc., etc. Et c'est pour cela que moi j'ai créé cette notion, d'ailleurs dans les années 70, du transculturalisme. Il faut que l'Italien parle au Chinois et que le Chinois parle à l'Italien. Alors vous savez qu'à Toronto, Madame Cohen, c'est que il y a 169 langues qui se parlent.
Ah, c'est merveilleux. 169 langues, oui. À Toronto.
Pardon ?
Je suis très, très impressionnée.
Oui. C'est très intéressant. Mais vous savez, le problème, madame, c'est que quand vous essayez de proposer quelque chose de... Bon, ben, je ne dis pas à nouveau, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais des angles différents, ok ? Lorsque vous présentez quelque chose de différent, vous êtes automatiquement bloqué. Moi, je ne veux pas écrire à la Victor Hugo. C'est pas possible. Victor Hugo l'a mieux fait que moi. J'ai pas besoin d'écrire comme Victor Hugo. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas été influencé par Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Ezra Pound, Emily Dickinson, etc., etc. Mais je veux me démarquer par rapport à ce qui s'écrit, c'est-à-dire de traduire mon époque personnelle dans laquelle j'ai vécu et je vis. Et c'est cette vision-là qui m'a causé pas mal de problèmes, parce que maintenant, vous voyez, par exemple, tous les intervenants qui sont venus, ce sont des gens qui s'intéressent à mon œuvre et qui sont dans les universités. D'accord ? Ils sont tous des universitaires, avec une poète. La poétesse est Monique Labidoire, qui n'est pas universitaire. Ceci dit, pourquoi ? C'est parce que on dit que mon œuvre est hermétique. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'hermétisme, même en poésie. Pourquoi ? Parce que dans la poésie hermétique, il faut passer un peu plus de temps pour pouvoir la comprendre. On ne peut pas la lire et la jeter comme ça en deux secondes. Il faut vivre avec le poème. Et lorsqu'on vit avec le poème, on essaie d'en tirer quelque chose. Ce que j'appelle, moi, une substantifique moelle qui vous permet de vous enrichir et non pas de vous appauvrir. Voilà, en gros, c'est ça.
Alors, je voudrais me permettre d'évoquer, puisqu'ici nous sommes sur Radio Colavive, la radio de la communauté juive de Toulouse,
oui.
Une dimension de la transculturalité qui est à l'origine de notre histoire et qui rassemble les trois religions du livre, c'est celle d'Abraham. Et parce qu'Abraham, justement, est le premier qui est appelé hébreu. Hébreu, ça veut dire passeur, et on parlait de passage tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Abraham, c'est celui, si vous voulez, il est chaldéen. Il parle le chaldéen. Et il s'en va.
Oui.
Et il s'en va vers un pays, vers une contrée qu'il ne connaît pas, pour répondre à l'appel de celui dont il ne connaît pas le nom. Et ce n'est pas un voyage identitaire comme Ulysse qui revient chez lui. C'est une invention. C'est une invention, et Abraham, qui est à la source de nos des trois religions du livre, hein, est un passeur comme vous.
Exact.
Exact. Si on peut le dire. Et alors
mais merci de l'avoir dit, madame. Merci beaucoup de l'avoir dit. Parce que c'est ça ma fonction de passeur, si vous voulez. C'est tout. Moi, je ne suis qu'un instrument de passage. Je suis quelqu'un qui passe et qui fait passer quelque chose. Et au fait, toute ma vie, ça a été un peu une sorte de construction de petite passerelle. Je ne suis pas très prétentieux de vous dire « Ah, voilà, j'ai créé quelque chose d'extraordinaire », pas du tout. Non, c'est des petites passerelles qui font dialoguer le monde entier, dans le sens, avec surtout de ne pas considérer comme, par exemple, Katibi qui dit que la différence est intraitable. Alors moi, je dis non. Je sais pas, la différence n'est pas intraitable. La différence est traitable. Seulement, il faut des instruments pour la traiter. Et l'instrument pour la traiter, madame, c'est la connaissance de l'être humain et du monde intérieur de l'être humain, de soi et de l'autre. C'est ça la problématique d'Abraham, comme ma problématique à moi.
Alors je vais passer la parole à Pierre Léoutre qui souhaitait dire quelque chose.
Oui,
Pierre.
Enfin, je voudrais citer Éric Jacobé.
Pierre, est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce que je t'entends pas bien.
D'accord, je voudrais citer juste Éric Jacobé qui a donc écrit dans les Actes et qui parle de ton écriture. Alors, Éric Jacobé, donc, c'est un universitaire et un poète lui-même. Hein. Alors voilà ce qu'il écrit, Éric Jacobé. Eddy Bouraoui a déclaré il y a déjà plus de 30 ans que son écriture se situe entre des interstices culturels. Ces interstices entre les cultures représentent, selon lui, des espaces illimités prêts à recevoir un type d'écriture particulier, écriture située entre les cultures, au confluent de leurs influences. Le conte poétique « La rose des sables », ça me fait plaisir de le lire parce qu'il est très beau, hein. Le conte poétique « La rose des sables », en plus de sa dimension fantastique, et non pas hermétique, parce que je pense que, moi, tu n'es pas hermétique, mais tu as une dimension fantastique, illustre bien ce principe. La rose du désert y est confrontée à l'infini. Infini espace et infini silence, béance originelle, dans un espace qui change perpétuellement de forme. Voici le poème. Nouveau coup de vent, ce n'est rien d'autre qu'un coup de cœur. Il éparpille le sable. Rose réapparaît, majestueuse au soleil de midi, ses flancs brillants, ses atours libérés.
Peut-être que nous pourrions, dans la suite de l'écoute de ce poème, faire une pause musicale ici sur Radio Colavive.
Vous voulez que je commente ce petit poème-là ?
On va faire une pause musicale et après, on veut bien, ouais. Ben là, on va faire une pause musicale.
D'accord. Oui, bien sûr. Thank you.
Et Déborah, oui, est-ce que vous voulez bien commenter le texte que Pierre Léoutre a choisi de lire pour vous et votre poème?
Oui, bien sûr. Écoutez, d'abord, je reviens sur ce que j'ai appelé l'écriture interstitielle. Pourquoi l'écriture interstitielle? C'est avéré que M. Éric Sébri n'a pas mis en guillemets le mot écriture interstitielle. C'est moi qui ai créé cette terminologie. Mais pourquoi? D'abord parce que pour ne pas donner l'hégémonie à une seule culture. Lorsque je parle, par exemple, disons, prenons la culture maghrébine et la culture française. Et ça, ce qu'on fait à peu près presque tous les écrivains qui sortent du Maghreb, ils sont enfermés dans ce que moi j'ai appelé la binarité infernale. C'est-à-dire, vous avez deux, ok, la France et le Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Voilà. Ça dialogue entre ces pays-là dans un dialogue binaire. Alors, moi, dans mon cas, et ça se passe aussi dans La Rose des Sables, c'est pour cela que je vous parle de ça, c'est que La Rose des Sables enfante, donc le petit enfant tard, qui va traverser trois continents. C'est un peu mon histoire personnelle. Et c'est-à-dire, il part du sable de l'Afrique à la neige du Canada, d'accord, en passant par la France et l'Europe. Bon. Alors, l'écriture interstitielle, c'est quand vous mettez trois cultures, donc vous avez deux interstices dans lesquels vous pouvez faire dialoguer les trois cultures. Et c'est pour cela que j'essaie de toujours, ceci dans ce que Derrida a appelé la déconstruction, de déconstruire la binarité infernale. Et surtout, l'hégémonie d'une culture unique. Dans Rose et Sable, donc, le petit art part, comme je viens de le dire, et il va changer de nature petit à petit lorsqu'il traverse des cultures différentes. Et à chaque fois qu'il traverse une culture différente, il en adopte ce que lui pense convienne à son tempérament personnel. Et par conséquent, il adapte la culture autre à sa propre culture et il l'ajoute à la sienne, tout en dialoguant avec l'autre culture. C'est ça le commentaire du passage de la poésie dont Pierre Léoutre a lu un passage. Et c'est un conte, au fait, philosophico-poétique, je dirais ça, un peu à la manière du Petit Prince de Saint-Exupéry, mais avec la différence que moi, je ne suis pas Saint-Exupéry et je ne veux pas faire du Saint-Exupéry. Il l'a fait mieux que moi. Je veux faire du Bouraoui. Et le Bouraoui, c'est le transculturel et non pas l'uniculturel français de Saint-Exupéry. Voilà, en gros, c'est un peu ce dialogue. C'est pour ça que, par exemple, ce qui m'a plu à lecture, c'est le mot « dialoguer en poésie ». Bon,
c'est un très beau titre.
Dialoguer, ça veut dire plusieurs personnes. Et on le dialogue en poésie. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, d'autant plus que j'ai passé mon adolescence dans ce petit patelin et que j'ai fait mes études à Toulouse, non pas à Paris. Donc, c'est un peu ça qui m'a beaucoup plu. Et lorsque Pierre Léoutre, gentiment, m'a proposé, quand je l'ai rencontré, de faire un colloque, j'ai dit « Bravo, Pierre, oui !» Elle m'a dit « Mais la condition que vous m'aidiez ?» J'ai dit « Oui, c'est la preuve, c'est que les gens qui me suivent, c'est-à-dire les universitaires qui font des travaux, sont venus. » Ils sont venus pour participer à ce colloque. Et on a passé trois journées formidables, avec une amitié indéfectible, quoi, vraiment très sympathique, très très bien passé, et nous avons passé le relais à Frédéric, il faut pas l'oublier, Frédéric Thuriau, Gaël Thuriau, qui est un collègue et un ami de longue, longue date, et qui a gentiment accepté de présenter le livre, de réunir ce qu'on appelle, en, dans le jargon universitaire, réunir les textes du colloque. Parce que là aussi, il faut, il y a un certain standard, il y a certaines façons de faire, il faut appliquer. Voilà.
Alors j'aimerais vous... J'aimerais vous poser, oui, pardon. J'aimerais vous poser une question qui est issue oui. De la communication d'Angela Bueno, Livre Errance, où à propos, elle parle de, bien sûr de votre écriture interstitielle, ce que vous disiez.
Oui.
Au fait, le mot l'écriture interstitielle, ça me fait penser aussi à Georges Braque, qui disait
oui.
Je ne peins pas les choses, je peins ce qu'il y a entre les choses. J'ai eu cet éclair qui m'est venu. Et voilà, ce que dit Angela Bueno, c'est qu'il y a, que vous établissez un lien, et c'est un paradoxe, entre créativité et critique.
Oui.
Parce que d'habitude, on a un peu l'habitude d'opposer l'une à l'autre, la créativité et la critique.
Tout à fait.
Et alors, comment vous associez les deux dans votre œuvre?
Voilà, ok, une excellente question. Je vous remercie pour cela. La création, dans la création, dans ce livre que j'ai appelé Livre Errance. Pourquoi Livre Errance? Parce que on peut errer dans le monde comme on peut errer dans un livre,
oui.
À la lecture d'un livre. Alors j'ai eu cette idée, j'ai enseigné la théorie de la critique littéraire à York, en anglais, là, c'est, d'ailleurs, toujours littérature comparée, c'est-à-dire française et américaine, dans ce cas-là, les écoles de critique littéraire. Et j'ai toujours réfléchi à cette question, c'est que comment critiquer dans le sens positif, hein, pas toujours négatif, un texte, un livre, un poème, etc. Comment s'y prendre? Et j'ai eu cette idée-là un jour, quand j'ai lu, vous savez, je lis beaucoup de la poésie, j'ai beaucoup lu des livres, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un poème critique, c'est-à-dire un poème qui prend en charge ce que dit le poète dans un livre, mais dans un seul poème, c'est-à-dire de faire une critique poétique, de créer mon propre poème, sur ce texte-là. Et ça, j'ai déjà commencé à faire ça, j'avais commencé à faire ça dans un livre que j'appelle The Critical Strategy, la stratégie critique. Parce que dans toute critique, il y a de la création. Et dans toute création, il y a de la critique. Il y a donc une dialectique entre ces deux notions, il y a une tension qui existe entre ces deux notion de création et de critique. Et je voulais travailler sur ça. Et ça a donné Livre Errance. J'ai lu peut-être, je ne sais pas combien il y a de poèmes dans le texte, mais à chaque livre de poèmes, j'ai écrit moi-même un poème. Alors, Monsieur Sivry, par exemple, qui est poète lui-même, et qui m'a reproché, il m'a dit, mais peut-être tu vas tomber à la manière de. Et j'ai dit non, je ne fais pas à la manière de, je fais à la manière de Bouraoui ce que j'ai lu dans Cécile Cloutier. C'est le poème Entre deux que Angela Buono, une universitaire italienne, a formidablement bien étudié. C'est peut-être, à mon sens, un des meilleurs textes qu'il a écrit dans ce livre. Parce qu'elle est allée en profondeur sur un poème de mon amie Cécile Cloutier, qui est une poète québécoise qui vit à Toronto et qui est une collègue à moi, pas dans mon université, dans l'université de Toronto, et qui est une amie. Et j'ai lu son poème, son livre, et j'ai écrit ce poème-là entre deux. Et Angela Buono essaie d'étayer cette théorie que j'ai lancée du dialogue, comme dans le dialogue des cultures, le dialogue entre création et critique. Voilà.
Alors, si quelque chose est évoqué en moi, à la lumière de ce que vous nous transmettez, je crois que pour être vraiment un critique littéraire, il faut être soi-même écrivain. Autrement, on est à côté. Je ne sais pas si vous entendez si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et d'autre part, il y a une dimension de la critique, et là je ferai le lien avec le texte de Samira Etouil dans le oui. livre du colloque. Samira Etouil qui dit que c'est aussi un paradoxe, hein, que le lecteur est au centre de la notion de créativité. Et donc, c'est comme une façon de réintroduire dans la création le dialogue avec autrui. Est-ce que vous entendez comme je perçois?
Oh, je suis tout à fait d'accord avec Samira Etouil, avec ce que vous dites. Bien sûr, le lecteur est au centre. Sans le lecteur, il n'y a pas de création, il n'y a pas de critique. Vous savez.
Alors, ben, c'est ça. Comment le lecteur est-il au centre?
Il est le lecteur au centre. S'il dialogue avec le texte, il devient le centre. Mais s'il dialogue pas, il peut pas être le centre.
Oui, mais pour vous, le poète, pardon, quand vous écrivez un poème, où est le lecteur quand vous l'écrivez?
D'abord, moi, je crée le lecteur, c'est une ouverture, madame. Je ne fais pas de la morale et je ne fais pas de. Quand je dis message, j'aime pas d'ailleurs le mot message, mais disons, quand j'écris un texte, le texte est lancé dans le monde. Et ce que il y a longtemps, maintenant j'ai complètement oublié, mais je parlais de la lecture participatoire. C'est-à-dire, je veux faire participer le lecteur, la lectrice. J'espère, lorsque vous lisez un texte, ok, vous lisez un texte, vous y participez, mais d'une manière passive. Mais si vous commencez à l'interpréter, et vous commencez à le critiquer dans le sens de pas critique, hein, pas simplement négatif, d'apprécier ce que ce texte vous dit. À ce moment-là, vous participez avec l'auteur. Sinon, si vous le laissez de côté, vous ne participez pas. Vous savez, une fois, j'ai dit à la radio de Toronto, ici, Radio du Canada, Toronto, quand j'ai lancé le mot émigrescence.
J'ai remarqué que vous inventiez beaucoup de mots. C'est très heureux à découvrir les mots que vous inventez.
Bah oui, je vous remercie, madame, c'est gentil. Vraiment gentil. Parce que, en général, les mots, on me dit, ah, c'est des néologismes. Mais non, c'est pas des néologismes, c'est des jeux de mots, c'est pas des jeux de mots. Non, ce sont des mots concepts. Et d'ailleurs, tous les critiques que vous lisez dans ce livre-là, dans le livre que vous avez entre les mains, ils emploient le mot concept sans même le mettre en guillemets. C'est parce que j'avais lancé le mot. Parce qu'un mot est tout une conception du monde, madame. Un seul mot, comme émigrescence, ce mot-là, ça contient énormément de choses.
Vous me permettez, je vais lire quelques mots que vous avez inventés.
Oui, bien sûr.
Il y a « à mourir ».
Oui.
Écrivoyance.
Oui.
Musoctel.
Oui.
Et cosmos.
Oui.
Émigrescence, que vous venez de citer.
Oui.
Mais ce sont des mots qui sont très, très agréables. Ils ouvrent des horizons quand on les entend.
C'est ça. C'est exact. C'est le but. C'est le but, madame. C'est exactement le but. Alors, vous voyez, donc, je reviens à ce mot émigrescence, c'est l'essence de l'immigration, l'immigration en essence, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce mot-là. Mais au fond, il a été créé pour une chose spécifique et spéciale, c'est que quand vous venez, moi, au Canada ici, je suis un immigré récent, d'accord?
D'accord.
C'est clair. Tandis que celui qui est né là, c'est un Canadien de souche. D'accord? C'est ce qu'ils disent, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai, parce que bon, j'ai un passeport canadien, ça fait presque un demi-siècle que j'habite au Canada, mais ça fait rien. Je serai toujours un immigré récent. Alors, pour déconstruire cette notion, cette binarité encore infernale, vous voyez mon mot encore, de souche et de immigré récent, j'ai dit simplement, à la radio, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est que... J'ai dit, écoutez, les migrations, nous sommes tous des immigrés. Que vous soyez de souche ou que vous soyez d'autre part, que vous venez d'autre part, vous êtes de passage dans cette vie. Vous êtes de passage. La terre ne vous appartient pas. Elle appartient au Bouddha, comme les bouddhistes disent. C'est-à-dire, elle appartient à Dieu, à tout ce que vous voulez. Alors, quand je vous parle, moi, quand je vous parle, madame Monique Lise Cohen, j'immigre, si vous voulez, par la parole en vous. Si vous me répondez, vous immigrez, vous aussi, par la parole en moi. Et c'est là où se crée le dialogue. Et si vous ne voulez pas me répondre, ou si vous ne voulez pas écouter mes paroles, c'est que vous me bloquez, vous me dites, bon, non, je ne veux pas vous entendre, point. Et vous ne créez pas de dialogue. Voilà donc, et pour m'amuser un peu, pour terminer sur cette histoire des migrations, alors j'ai appelé les gens dans un livre qui pour moi est fondamental, c'est sur ma ville où j'habite, Toronto, Ainsi parle la Tour CN. Vous voyez que c'est un écho de Nietzsche, mais c'est pas... Il parle, ainsi parle le présent. La Tour CN, c'est la plus haute tour du monde à l'époque. Maintenant, elle l'est plus. Et j'ai créé ces deux notions. Ceux qui sont de souche, je les ai appelés les sous-chics. Et ceux qui sont des immigrés récents comme moi, je les ai appelés avec... Vous savez que l'orignal, c'est l'animal le plus célèbre au nord de l'Ontario, très connu, l'orignal. Alors j'ai appelé ça l'orignalitude, parce que l'orignal a le museau du cheval, les cornes du cerf, la bosse du chameau. Il est trafiqué de différents continents, de différentes parties, et donc ça fait l'orignalitude.
Je vous remercie, Eddie
Voilà,
Barraoui.
En gros, si vous voulez, parce que les clichés que produisent certains écrivains, je suis pas là pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais je suis là pour dire que répéter, ressasser ce que Victor Hugo a dit ou fait dans la poésie romantique, pour moi, ce n'est pas ma problématique. Voilà, c'est tout. Alors, les problématiques des autres, je les respecte. Mais je ne m'intéresse pas à refaire du Victor Hugo. Voilà.
Je vous remercie, Eddie Bouraoui. Nous approchons de la fin de notre émission et je crois que Pierre Léoutre voulait lire quelque chose.
Oui, bah juste oui, quelques mots qu'on a mis dans le livre, toujours. Nous associons au nom de ce poète attachant le mot magnifique de paix, quintessence à notre sens, du monumental travail littéraire de notre ami. Ces valeurs humanistes que prône Eddie Bouraoui, cette tolérance universelle qu'il souhaite comme comportement relationnel lié à la conscience forte d'une culture globale du genre humain, n'ont qu'un but unique et sincère, la paix. Et je finis par une citation d'Eddie. La paix, c'est la véritable rencontre de l'autre dans sa vérité, c'est l'acceptation totale de la différence.
Merci Pierre pour cette lecture. Cher Eddie Bouraoui, nous allons nous quitter maintenant et je vous remercie d'avoir bien voulu parler sur les ondes de Radio Colavive. Votre œuvre est absolument immense. Il y a un site qui vous est consacré et nos amis peuvent prendre connaissance de l'importance extraordinaire de votre œuvre transculturelle, comme vous dites, transpoétique et œuvre de paix, œuvre de passeur et de passage. Et je voulais particulièrement recommander le livre du colloque Eddy Bouraoui et les valeurs humanistes, organisé par M. Pierre Léoutre, qui dirige Dialogue en poésie. Texte réuni sous la direction de Frédéric Gaël Thuriot. C'est aux éditions BOD et on le trouve bien sûr à Toulouse, puisque nous sommes ici à Toulouse, où vous avez fait vos études, dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis bonne chance pour la suite de votre œuvre et je suis très impatiente de vous lire à nouveau. Merci Pierre aussi.
Je vous remercie beaucoup infiniment et du fond du cœur. Merci beaucoup madame et merci Pierre. Merci ouais. Beaucoup.
Au revoir Eddy, avec plaisir. Salut.
Au revoir Béard, au revoir et Monique.
Et la page.
Au revoir Béard, au revoir et Monique.
Paysage.
Au revoir Béard, au revoir et Monique.
Le pied sur une berge. Vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu. Et là, enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel, telle que tu quittes la terre vers un point solitaire constellé de pluriel. Il faut tourner la page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier, le vieux cahier des charges. Il faut faire un silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage. Rien ne fait semblant. Saluer le mystère, sourire et puis se thank you.